tous les êtres humains naissent libres et égaux.
Bonjour chers auditeurs de Nantes ou d'ailleurs. Bienvenue sur la planète de la Ligue des droits humains, section nantaise. 4 millions de mal logés, 3 000 enfants à la rue, des femmes plus à risque que les hommes. Le 28e rapport annuel de la Fondation Abbé Pierre sur le mal logement en France nous dresse un portrait bien alarmant de la situation. Allons voir ce qu'il en est du côté de Nantes avec Jeanne et Jean-Luc de la LDH. Pourquoi une association comme la Ligue des droits de l'homme s'occupe du mal logement ?
Bon, la Ligue des droits de l'homme s'attache à la défense des droits, de tous les droits, et de l'effectivité de ces droits, et en particulier donc au droit au logement, qui fait partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme, exactement de l'article 11, et puis d'autre part, l'effectivité de la loi française qui se fonde sur le préambule de la Constitution française de 1946, et qui dit que la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Et elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la sécurité matérielle. Et dans cette sécurité matérielle, il y a le logement. C'est sur cette base constitutionnelle que a été votée la loi Quillot en juin 82. Le droit à l'habitat est un droit fondamental. Puis la loi Mermez un peu plus tard. Et d'autre part, plus récemment, en 90, la loi Besson, qui est la loi du droit au logement opposable, dite loi Dalloz. Voilà les fondements de l'action de la LDH, qui se caractérise par la volonté de rassembler le plus possible d'organisations qui œuvrent pour que la majorité de nos citoyens et citoyennes de notre État puissent avoir un toit et un logement convenable. C'est le terme employé par la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Jeanne, au sein de la LDH, vous faites partie du collectif Personnes à la rue. Pouvez-vous d'ores et déjà nous parler des associations qui le composent et quelles sont ses actions ?
Le collectif Personnes à la rue a été créé au moment de l'évacuation du square d'Aviet. Et le collectif Personnes à la rue est composé d'associations qui viennent en soutien aux personnes en grande précarité, vivant à la rue pour certaines, et vivant également dans des bidonvilles ou dans des squats. Donc autour de ces personnes, souvent, elles sont soutenues par des associations telles que la SAMLA pour les traductions, la CIMAD, il y a également le MRAP, il y a aussi la LDH, il y a le Logis Saint-Jean, Médecins du Monde, enfin, je vais en oublier sans doute, le collectif Enfants étrangers, la Ligue de l'enseignement, du Monde dans la classe, ATTAC, il y a aussi Solidaire 44, le Secours catholique, enfin, c'est des associations très variées, mais qui ont quand même chevillé au corps et au cœur de venir en aide à ces personnes qui sont à la rue, parce que, comme ça a été évoqué un petit peu plus tôt, le logement, c'est un droit.
Pouvez-vous nous dresser un petit bilan de l'état du logement sur Nantes et sa banlieue ?
Donc, selon la Gazette de la LDH, sur la situation dans l'agglo nantaise, est de 38 000 demandes de logement social en cours, et les associations estiment à plus de 10 000 le nombre de personnes vivant à la rue, en bidonville ou en squat actuellement.
Dans quelle mesure les femmes sont-elles plus touchées par le mal logement ?
Les femmes sont plus touchées par le mal logement parce que ça les fragilise beaucoup plus. C'est la question de la mise à l'abri. Toutes les personnes qui vivent à la rue sont déstructurées, il y a beaucoup de violence, et les femmes peuvent être victimes de violences physiques, et aussi, enfin même de la violence sexuelle, c'est aussi de la violence physique, et de plus, dans la rue, il n'y a pas de possibilité d'intimité, et les femmes ont quand même un peu plus besoin d'intimité que les hommes. Et il y a aussi une autre chose qui précarise un peu plus les femmes, c'est qu'elles ont bien souvent, elles ont aussi des enfants avec elles, et ça amplifie encore le phénomène. Par exemple, je peux vous donner quelques chiffres de femmes actuellement. Nous avons des femmes seules qui sont enceintes à la rue. Trois ont été repérées par les diverses associations. Deux femmes enceintes en couple. Il y a une femme enceinte en couple avec deux enfants. Il y a également un couple avec enfants. 12 femmes sont seules avec des enfants qui vont du nourrisson à 16 ans, dont une dame avec 5 enfants. Il y a également 3 femmes seules, 27 ans, 29 ans et 51 ans. Donc ça c'est pareil, l'âge c'est très varié. Et le groupe Les Hébergeurs Solidaires ont pris en charge un enfant de 14 ans qui était à la rue. Voilà, à peu près, ça peut varier en fonction des semaines, des mois, mais sur Nantes, oui, il y a quand même des femmes et des jeunes enfants, des mineurs à la rue.
Face à de telles situations, comment vous faites pour vous organiser? Quelle est votre méthode de travail au sein du collectif?
Eh bien, chaque réunion commence par un état des lieux. Chaque association dit les difficultés qu'elle a rencontrées depuis la réunion précédente. Ainsi, ça permet d'avoir un tableau de tout ce qui se passe dans l'agglomération, puisque ce sont des dizaines d'organisations qui sont autour de la table. Et puis, à partir de là, une fois cet état des lieux fait, les associations réfléchissent ensemble à comment peut-on agir, auprès de qui et quelles actions nous allons mener ensemble. Alors, justement, cet été, nous nous sommes rendus compte que au problème du logement s'ajoutait maintenant le problème de l'alimentation de ces personnes, notamment à la rue, mais pas que, puisque il y a moins de récupération auprès notamment des grandes surfaces, et que donc les associations sont obligées d'avoir plus d'argent pour pouvoir acheter les denrées au niveau de la banque alimentaire, qui pratique des prix beaucoup plus abordables, mais cet argent, les associations ne l'ont pas. Donc il y a une accumulation à la précarité du toit, s'ajoute la précarité alimentaire.
J'ajouterai à cela que pour ce qui concerne l'alimentation, il y a aussi la question de la défiscalisation qui fait que maintenant les magasins vendent à date courte du fait du pouvoir d'achat qui baisse, le Kidam, les gens qui ont des petits revenus privilégient l'achat de ce genre de choses, et ce qui fait que les associations qui avant récupéraient ces denrées à date courte ne peuvent plus les récupérer maintenant. Pour les plus précaires, c'est une ressource alimentaire en moins.
Le 10 novembre, lors d'un rassemblement organisé par l'intercollectif Personnes à la rue devant la mairie, j'ai pu y rencontrer quelques militants. Écoutons-les.
Moi, je m'appelle Manon, je fais partie du droit au logement. Le logement, pour moi, c'est un sujet hyper important. Du coup, dans l'asso, ce qu'on fait, c'est qu'on a une permanence le lundi où on accueille les gens qui sont de sans logis à mal logés. Ça peut être plein de cas de figure différents. L'idée, c'est pas qu'on leur propose des logements, c'est ce qu'on leur dit souvent. C'est qu'on est là pour essayer de les aider dans leur démarche administrative et s'assurer que de leur donner les clés en main pour qu'eux aussi soient capables de faire par eux-mêmes. Ça, c'est hyper important. On l'oublie souvent. Et puis après, à côté de ça, on a des actions militantes. Et là, en l'occurrence, on fait partie d'un intercollectif Personnes à la rue. Qu'on fait ce qu'on peut avec nos petits moyens, mais qu'on est bénévole et que la situation, elle est de plus en plus critique. Ça fait des années qu'on le répète, mais là, c'est de pire en pire. Je l'entends sur différents types d'assauts, là, en l'occurrence, depuis cet été, que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu autant de gens à la rue et dans des situations extrêmement précaires et de mise en danger réelle. Et là, on commence à avoir froid. On a que ce soit les mineurs qui sont foutus dehors, qui ne sont plus du tout accompagnés, toute la problématique des migrants qui sont... eux aussi pas logés, qui ont le droit à un abri aussi. On fait des dossiers d'allo à l'appel où les gens sont reconnus prioritaires pour un hébergement d'urgence. Ils restent en attente comme tout le monde et ils sont à la rue. Et que ça soit, alors on parle beaucoup des femmes et des enfants, des familles, mais il y a aussi beaucoup d'hommes. Nous, on n'a pas de solution miracle. Et en fait, si les pouvoirs publics ne nous aident pas, on peut mettre l'énergie qu'on veut. On n'arrivera pas très très loin, donc c'est pour ça qu'on essaye de les solliciter encore une fois. Voilà.
Nantes est une ville qui fait partie de l'association Invita, qui est l'association nationale des villes et territoires accueillants. Si les mineurs ne relèvent pas de la compétence de la ville, néanmoins, Comme elle a pu su le faire à plusieurs fois, elle doit se substituer aux défaillances de l'État et du département pour prendre en compte les besoins de ce type de population qui est particulièrement vulnérable.
On voit régulièrement des personnes qui, pour peu qu'elles soient en conflit avec leurs amis logeurs, se retrouvent du jour au lendemain à la rue. Et nous, on se retrouve complètement démunis pour leur proposer quoi que ce soit. On n'arrive pas. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment insupportable. C'est vraiment insupportable. Des squats qui ont fermé, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de possibilité ? Et dans l'urgence, peut-être contacter aussi des entrepreneurs en proposant des commodas. Ça, tout ça, c'est dans l'urgence, mais c'est des choses qu'on peut faire dans l'urgence. Et je pense que tout ça, c'est pour le bien de tous, hein, parce que personne ne gagne à avoir des gens dans la misère autour de soi. Hein.
Et donc, quand est-ce qu'on fera rencontrer les besoins et les moyens ? Donc moi, je pense que nous, on a beaucoup à faire pour être beaucoup plus précis et beaucoup plus...
Si on revient au collectif Personnes à la rue, donc vous faites un état des lieux, un bilan, et ensuite, quelles sont vos actions ?
Par exemple, nous nous sommes battus au moment de la fermeture de la maison des familles, qui était un squat complètement insalubre, et avec le travail du collectif en co-construction avec l'association Les Eaux Vives et la ville de Nantes, il y a pu y avoir de réaliser un autre projet qui a vu le jour le 16 novembre avec une convention entre ces trois parties pour accueillir d'une manière inconditionnelle, dans les mêmes conditions que précédemment, les familles. Et c'est financé maintenant par le 1% mal logement métropolitain.
Alors c'est quoi ce 1% métropolitain ?
Eh bien c'est le 1% du budget de la métropole par an, c'est-à-dire 10 millions d'euros, qui sont attribués à la lutte contre le sans-abrisme. Donc c'est une victoire majeure de ce collectif sans-abri et qui a comme limite que ce 1% est attribué sur demande de chaque commune. Donc si les communes ne demandent rien, eh bien ce 1% n'est pas distribué.
Le 27 octobre, sur le territoire nantais, des familles roms ont failli être expulsées sans proposition de relogement. Quelles sont les dernières nouvelles ?
Les familles n'ont pas été expulsées le 27 octobre parce que les conditions météorologiques étaient vraiment désastreuses. On a eu deux tempêtes à suivre, mais elles ont été expulsées un petit peu plus tard, sans relogement pour la majorité, sauf pour quelques familles qui étaient plus en difficulté que d'autres. Il y a eu des nuits d'hôtel de proposer, et sinon pour la famille qui était les plus éloignées, de manière à ce que les enfants continuent leur scolarité, parce que étant donné que l'école était juste à côté, la scolarité se passait très bien. Donc pour ces familles qui ont été relogées sur Sainte-Luce dans un hôtel, une possibilité de transport a été mise en place. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est combien de temps ça va perdurer. Voilà. Et nous, le collectif Rome Europe, nous allons demander une rencontre avec la mairie pour pouvoir rediscuter d'une manière peut-être plus apaisée sur le fait de comment en est-on arrivé là avec ce terrain, alors que c'était prévu d'en faire un terrain d'insertion temporaire.
Alors, pour en revenir à la solution de relogement proposée, l'hôtel n'est pas une solution durable. C'est peut-être une solution d'urgence, quelques jours, mais on ne peut, ce ne sont pas des conditions convenables, comme dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, pour loger une famille, pour vivre en famille. On ne peut pas se faire à manger, les enfants n'ont aucun espace de jeu, et il y a une promiscuité entre les adultes et les enfants qui ne sont pas des conditions acceptables.
Le collectif a envoyé un courrier le mardi 31 octobre au préfet et à la mairie, leur reprochant de ne pas mettre les moyens nécessaires par rapport aux besoins de logement dans l'agglomération. Et le 10 novembre s'en est suivi un rassemblement devant la préfecture, puis à la mairie. Avez-vous été reçu et vous a-t-on donné des réponses ?
La demande principale, c'est que les logements, les bâtiments vacants actuellement disponibles sur Nantes et qui ne doivent être pas être réinvesti immédiatement, soit l'objet de baux précaires, c'est pour une durée de 6 mois, de 9 mois, d'un an, à disposition des associations qui accueillent les sans-abri, et de manière inconditionnelle.
La préfecture nous a octroyé 38 places dans l'ancienne école de la marine. La mairie a ouvert le 16 novembre le premier accueil pour une famille, gérée par l'association Les Eaux Vives. L'intercollectif demande 40 places. Il faut savoir que sur Nantes, il y a une grosse carence de logements d'urgence. Il n'y a plus de places en squat pour compenser les manques chroniques de places en CADA, par exemple. Et de plus, les lieux pour protéger les familles la nuit, il n'y en a pas non plus. Il n'y a toujours rien pour les mineurs. Les lieux d'accueil sont saturés. De ce fait, le 115 ne répond plus parce qu'il n'a rien à proposer.
Il vient d'être dit qu'on ne pouvait plus ouvrir de squat. Or, les squats, effectivement, comme par exemple celui de la Maison du Peuple derrière Gralin, a permis en 18 mois d'accueillir plus de 1000 personnes à la rue, inconditionnellement. Voilà l'œuvre de bénévoles, eux-mêmes sans abri.
À vous écouter, on a vraiment l'impression que les associations font le travail des pouvoirs publics qui ne sont pas à la hauteur. Quel est l'état moral des bénévoles à l'heure actuelle ?
Oui, c'est exact. Les bénévoles des associations pallient les manques de l'État. Nous nous faisons un devoir de répéter à l'État que le logement est un droit et que sans pouvoir utiliser ce droit, c'est tous les autres droits qui ne peuvent pas être mis en place ou exercés. La loi Casbarian-Berger, votée avec l'appui du centre, de la droite et du Rassemblement national, présentée comme une loi protectrice pour les petits propriétaires, cette loi est une véritable machine de guerre contre les mal-logés, les squatteurs et les personnes qui les soutiennent. J'ajouterais que nous, bénévoles, sommes parfois découragés, mais nous avons conscience qu'en se battant pour le droit des plus précaires, nous agissons pour assurer une paix sociale qui ne peut exister en excluant une partie de la population. Seul un changement des lois pourra garantir une amélioration du mal-logement.
Notre chronique s'achève. Merci à vous de nous avoir écoutés, en espérant que cela vous aura peut-être donné envie de vous engager. Et n'oubliez pas de noter la date du 10 février dans votre agenda pour une journée conviviale, politique et culturelle intitulée « Vive l'égalité à la Manu ». D'ici là, nous nous retrouvons au mois de janvier pour notre chronique mensuelle qui sera sur la Palestine. À bientôt !